Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui avec nous, nous avons notre chroniqueuse Poussadi Vani. Bonjour Poussadi. Et puis ensemble, nous allons recevoir Sylvie Bérubé, qui est une avocate médiatrice qui va nous parler de son métier et de tout ce que ça comporte là-dedans, et puis aussi d'un projet qui lui tient à cœur, alors que je vais essayer de prononcer correctement, qui s'appelle Windsong Festival of the Core of Aruba. Yeah, yeah. Alors maintenant, on part en musique avec Émile Bilodeau qui nous chante La jungle du capital.
On s'en va pêcher, le gros poisson, mais faut se dépêcher, y'a des millions d'hameçons. C'est la guerre, ça a de l'air, tu peux faire bien de l'argent. Dans la mer, les salaires sont vraiment intéressants. C'est le bain quand tu y penses, des requins de la finance. Quand ça va bien, tu dépenses, mais quand t'as moins de créances, tu te mets à emprunter les mauvais vers du banquier. On aurait dû s'en douter. Quatre prêts, pas prêts. Il faut que tu te battes pour un prêt. Puis si tu le rembourses pas, ben là, ça va mal. On pogne pas grand poisson dans le filet social. Fait que tu te mets à emprunter les billets verts du banquier. Ça, c'est une mauvaise idée. Parler d'argent, c'est pas toujours évident, hein, hein, hein. Mais hein, les riches s'en pifrent et la classe moyenne s'en fiche. Ici, les pauvres sont poursuivis par les pauvres. Je suis l'humble de la jungle du capital. T'es allé chasser l'ours, t'as misé à la bourse, mais t'as pogné la frousse, t'es parti à la course. Quand t'as vu la tribu des trous de cul qui t'ont arraché un œil pour t'implanter un portefeuille, à ce soir quand t'ouvres les yeux, tu ne vois plus le ciel bleu, mais l'enfer vert des bonnes affaires. Fait que tu te mets à pleurer dans la forêt du banquier. On aurait dû s'en douter. De dollars ont pris leur envol avec les huards imprimés à même le pactole. Ces volants voleurs faisaient vraiment peur avec leur couteau dans le bec. Ils ont dit fait tout un chèque, mais t'es seulement content. Puis on dit ok, on range la hache, ça nous arrange le cash. T'as pas là, t'as pas juste perdu tes piastres, mais t'as perdu la face. Fait que tu te mets à pleurer au chevet du banquier. Ça, c'est une mauvaise idée. Parler d'argent, c'est pas toujours évident, hein, hein, hein. Mais hein, les riches s'en piffrent et la classe moyenne s'en fiche. Ici, les pauvres sont poursuivis par les faux. Je suis l'humble animal de la jungle du capital. Tellement belle, autant dans le ciel, autant sur terre que dans la mer. Mais si les glaciers fondent et si la beauté du monde se fait tasser par les projets.
Alors nous voici en ligne donc avec Poussadi Vani et Maître Sophie Bérubé. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Sophie, bonjour Poussadi.
Bonjour.
Alors Sophie Bérubé, alors d'abord merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis merci à Poussadi qui nous a trouvé l'invité. Et Dieu sait que des questions, on en aura dessus. Mais je vais commencer par une plus basique pour ceux qui ne sauraient pas. Qu'est-ce qu'une avocate médiatrice ?
Oh là là! Bien, c'est quelqu'un qui de plus en plus a de la difficulté à faire la différence entre le bien et le mal, parce que on est en fait comme médiateur ou comme médiatrice, on on est omnipartial, qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que on ne représente pas qu'une seule partie. On ne représente pas, par exemple, dans un conflit familial, le père seulement ou la mère seulement, mais on représente tout le monde, en fait. On représente oui. le père et la mère, et en plus, on a en tête les enfants.
Ça, c'est bien. Futur.
Donc, on est moins dans... Un avocat va veiller à l'intérêt d'une partie, va aussi trouver des arguments pour défendre les intérêts d'une partie, alors que j'aime à imaginer que un médiateur, c'est plus... c'est un facilitateur pour reprendre le dialogue là où il s'est arrêté, mais c'est aussi un défenseur de la paix et, quand il s'agit de la famille, un défenseur du futur des enfants.
Oui. Alors, je présume que moi, c'est ce qui m'a touché beaucoup quand j'ai lu là-dessus, c'est que vous vous occupez des enfants et vous êtes à l'écoute des enfants, parce que je me doute qu'au milieu de tout ce qui se passe avec les parents, c'est difficile des moments pour les enfants de dire ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils ont envie de dire.
Ah, c'est... Il y avait un médecin qui m'avait déjà dit quelque chose qui m'avait beaucoup aidé. Il m'avait dit, un enfant, c'est le thermomètre de ses parents.
Oh, c'est joli.
Donc,
ça.
Donc, si on est stressé, on est méfiant, nos enfants vont être stressés, ils vont être méfiants. Et évidemment, lorsqu'on passe au travers d'une rupture ou d'un événement traumatisant, on est non seulement parent, mais on est aussi un enfant blessé. Donc, ça fait beaucoup d'enfants blessés à comprendre dans toute cette équation-là. Il y a les deux parents qui sont en crise, en détresse, et aussi les enfants. Les enfants, c'est pas nécessairement qu'ils ont de la difficulté à exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer. C'est plus que ils ont encore plus besoin de rester des enfants dans des situations comme ça. Et parfois, ce qui va arriver, c'est qu'on va les parentaliser trop rapidement, sans s'en rendre compte. Par exemple, si j'ai de la peine parce que j'ai perdu mon conjoint, et qu'est-ce qui me rend heureux à part mon conjoint, par exemple, dans ma vie? Mettons que ça va pas bien au travail, bien souvent, ça va être mon rôle de mère, par exemple. Et là, il se peut que des parents qui sont en train de vivre cette transition-là, qui ont besoin d'exprimer leur propre détresse, eh bien, malheureusement, des fois, ça déborde et cette détresse-là, elle n'est, même si elle n'est même pas clairement exprimée, elle est ressentie par les enfants qui, tout à coup, se portent un peu, se placent dans un rôle de parent.
Oui, c'est ça. Un petit garçon peut devenir le chef de famille trop tôt.
Exactement, exactement. Alors, tout dépendamment de l'âge des enfants, de où ils sont rendus, c'est le type de réassurance, je ne sais pas si c'est un mot, le reassurance, c'est plus en anglais, là, mais ils ont besoin d'être rassurés d'une façon différente. Il y en a qui, c'est en ayant certains contrôles sur, je ne sais pas moi, par exemple, le décor de leur nouvelle chambre, savoir à quoi s'en tenir. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être rassurés, qui sont surtout les plus jeunes, qui ne sont pas abandonnés et que la rupture n'est pas de leur faute. Parce que souvent...
Ah oui, ça doit arriver, oui.
Les discussions qui mènent avant, c'est souvent aussi autour de l'éducation des enfants. Si on n'a pas la même vision des choses, que ce soit au lit, dans les finances, souvent c'est dans l'éducation aussi. Donc, parfois, les enfants croient à tort que c'est à cause d'eux que leurs parents se chicanent.
Il se peut aussi que dans ce rôle de médiatrice, dans ce rôle de coaching aussi, il faut le dire, on puisse trouver des enfants qui ne comprennent pas ce qui s'est passé et dont les parents ne se rendent pas compte, alors que l'amour ne manque pas des fois, et qui ne se rendent pas compte de la situation qu'ils leur font vivre.
Ah, c'est un peu comme lorsqu'on vient d'avoir un enfant. On vient d'accoucher, on est comme dans une espèce de blur. Je dirais que tout le monde est dans cette espèce de confusion mentale en ce moment avec la pandémie.
Oui, aussi, c'est vrai.
On peut plus rien. Tout ce qu'on croyait, croyait vivre, ce qu'on vit souvent différemment, c'est différent. Je veux dire, on se voit avec. Avec un enfant tout heureux, et finalement, la plupart des parents, ils vivent des choses comme beaucoup moins joyeuses que ce qu'ils se sont imaginées. Donc, je pense que les enfants, Il faut tout de suite dire quelque chose, par exemple, les enfants ne vont pas souffrir de la séparation. Ce qu'ils vont les faire souffrir, c'est les tensions.
C'est ça.
Donc, les enfants s'adaptent plutôt bien. Puis je pense que même par rapport à tous les domaines, tu sais, nous, parce que moi, j'ai 45 ans, j'ai grandi avec le téléphone à roulette, pas d'Internet.
Oui.
Et nos enfants à 12 ans, maintenant, ce sont des encyclopédies.
Et encore, quand on dit 12 ans, c'est même des fois bien avant.
Exact. Donc, ils sont... tu sais, moi, je suis fascinée de voir à quel point j'en apprends, finalement, au niveau psychologique, même avec les enfants. Donc, je ne sais pas si c'est le rôle du parent d'expliquer ce qui s'est passé, si ce n'est que plus que de rassurer puis d'expliquer et que de préserver, finalement, chez l'enfant, cette croyance en l'amour, en la famille,
oui.
Parce que, oui, il y a des histoires malheureuses, mais il y a aussi des histoires heureuses, puis je pense que c'est ces histoires-là heureuses, il faut...
en parler.
Il faut les mettre de l'avant, donc, si nous, on passe au travers de quelque chose de malheureux, qu'on ait la sagesse d'espérer pour nos enfants que ça puisse aller bien, puis que pour les autres, ça puisse aller bien. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour bien des parents, parce que quand on se sépare, souvent, pour se convaincre que finalement, c'est une bonne chose, hein?
Oui.
Je suis beaucoup mieux comme ça, hein? Je suis vraiment mieux sans lui ou sans elle. C'est un confini, est folle, bon, hein, finalement. On se donne toutes les... Et ça, c'est tout à fait naturel, je veux dire. C'est une
oui.
façon de survivre à la perte. Mais dans ce temps-là, ça se peut qu'on fasse des gaffes et qu'on se rende pas compte à quel point finalement tout le monde fait de son mieux et que plutôt que de faire face à la peine de faire face à la peine de la rupture et dans ces moments-là, ben ce qui arrive, c'est le danger, c'est que on nous entend, hein, et puis les gens qui nous aiment, ben ils veulent nous supporter.
Voilà.
Donc, non seulement on va parentaliser des enfants, mais on va faire en sorte que, dans certains cas, des enfants vont se mettre à démoniser l'autre parent.
Oui, ça, c'est le plus grave.
Ça, c'est le plus grave, mais ça arrive. Tu sais, quand on perd un emploi, hein, on dit,
oui.
Oh, c'était des cons, hein, quand ils m'ont congédié et tout.
Oui.
Bon, puis finalement, après 3-4 congédiements, on se rend compte que le dénominateur commun, c'est nous.
Tout à fait.
Donc, c'est correct que parfois on soit d'accord avec papa, qu'on soit d'accord avec maman, en autant qu'on sait qu'on fait de notre mieux, puis qu'on s'améliore, puis que tout n'est pas fini. Tu sais, l'important, c'est d'essayer de tenter de préserver l'amour, le sentiment d'amour malgré la rupture.
C'est ça
qui va faire en sorte qu'on va réussir sa séparation, puis qu'on va même peut-être pouvoir coopérer dans une séparation.
Oui, puis pouvoir le vivre au mieux. On va en reparler dans un instant. Sophie, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause musicale et puis je te laisse la parole, Poussadi, après, promis. Alors, on va écouter Madame Autruche qui nous chante L'autre jour.
J'ai vu dans un miroir, c'était un amour, mais juste quand tu sortais d'un bar. L'autre jour, je t'ai vu dans un miroir, tu comptais les jours avant le vendredi soir. Tu souriais à ton reflet, tu chaînes pas à peu près, tes dents étaient droites, ton sourire écarlate. L'autre t'es vu dans un miroir. T'étais en amour, mais juste quand tu sors de d'un bar. L'autre jour, je t'ai vu dans un miroir. Ça m'a pris de court, j'ai eu du mal à y croire.
Alors, nous voici de retour. Et maintenant, Poussadi, à toi la question.
Oh, allô, Sophie, t'es tellement intéressante, ça n'a pas d'allure, là. Écoute, c'est super intéressant ce que tu proposes. Puis, je me demandais pour la médiation familiale, c'est pas nécessairement des gens qui sont en rupture, là. C'est vraiment plus. Ça peut être aussi des gens qui ont juste un conflit familial qui pourraient aller consulter un médiateur.
Oui, ça arrive moins souvent. Ça m'est arrivé des gens qui viennent me consulter en médiation et que après la première rencontre, puis où j'ai passé peut-être 1-2 ans avec eux, on se rend compte que finalement, ben c'est peut-être plus un défi de communication qu'une rupture inévitable. Donc, ça m'est arrivé que les clients reviennent puis avec une bouteille de vin puis disent bon, finalement, on a décidé de pas se laisser. Ça arrive pas souvent. J'ai aussi des couples qui sont venus me voir pour un peu trouver un modus operandi parce que, tu sais, vivre avec quelqu'un, vivre en couple, vivre en famille, c'est comme avoir une entreprise en soi. Vivre toute seule, vivre. C'est une entreprise, hein? On a une sécurité sociale, on a des factures, on a des revenus, on a quelque chose, on se gère nous-mêmes, on gère nos émotions, on gère nos humeurs. Et des fois, on pense que dans cette grande liberté qu'on a tous de vivre, de croire, de faire, c'est à nous de trouver tout seul la recette. Ben moi, je te dirais que la recette, peut-être après avoir vu des centaines de couples, bien me dire qu'il y a quand même des choses qui se dégagent et qu'on devrait apprendre dès le début de notre relation. Être capable, par exemple, de parler d'argent, ça, c'est quelque chose que couples n'en parlent pas et qui mène à la rupture aussi. C'est la cause de bien des ruptures parce qu'il y en a un des deux qui vit avec le poids des finances, par exemple, et il se sent incompris. Tu sais, donc déjà de pouvoir peut-être briser les tabous, que ce soit en sexualité, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à nos valeurs, et aussi se donner la permission de changer. Tu sais, on change, on évolue. Donc, si on se marie, on est avec quelqu'un qui nous aime comme au premier jour, mais justement juste comme au premier jour, ça peut être problématique. Donc, la médiation, moi, je pense que oui, ça devrait être démocratisé. Puis en fait, c'est pour ça qu'on a développé un programme, ce que j'appelle en anglais là, de peacemakers, là, de professionnels formés, engagés pour la paix. Parce qu'on se rend compte que maintenant, à l'école primaire, on enseigne le pacificateur puis la médiation aux jeunes. Et tout conflit dans notre vie relève d'une médiation. Même le matin, quand tu te lèves et tu te dis « Oh, aujourd'hui, là, j'ai pas le goût là, de braver l'hiver puis d'aller annuler mon émission. » Mettons, là, je dis, j'ai mon médiateur interne qui me dit « J'ai pas le goût. » Puis l'autre, puis il y en a un autre qui dit « Ah oui, mais c'est tellement fun, j'ai le goût d'y aller. » On est tous comme ça. Donc, une fois qu'on est là, on aime ça. Donc, pourquoi on n'aurait pas plus d'aide de ce côté-là, comme on en a pour aller voir un psychologue, peu importe c'est quoi les étapes des choses qu'on vit. Donc, je pense qu'il y a un aspect coaching, à la médiation. Par contre, faut pas le dire publiquement. excusez, là, j'ai pas été très similaire. Parce que nos ordres professionnels nous disent un psy, c'est un psy, un avocat, c'est un avocat, un travailleur social, c'est un travailleur social. Alors que moi, ce que je me dis, c'est qu'un médiateur, c'est un bon humain, puis qui comprend.
Oui, c'est ça. L'humain.
Donc, oui, mais pour répondre à, excuse à ta question, oui. Il y a Freddy. Donc, oui, il y a des médiations pour les couples qui sont encore ensemble. Il y a aussi des successions. Par exemple, on hérite, on a un héritage.
Ah,
on a un parent malcommode qui nous a fait ça tout croche. Comment les frères et sœurs peuvent s'entendre là, par rapport à un héritage.
Ah, oui.
J'ai aussi eu des médiations en lien avec des agressions sexuelles. Oui. Par exemple, lorsque l'agression sexuelle n'est pas vraiment punissable par la loi parce que la preuve et les divergences permettent qu'il y ait un doute. Est-ce qu'on peut aller chercher une forme de justice réparatrice? Oui. Aussi pour les petites créances en construction. Et moi, ce que je rêve, c'est de médiation préventive. C'est-à-dire mais ça, on appellerait ça un avocat corporatif, mais on n'a pas tendance à les consulter quand on se marie ou quand on commence une petite entreprise. Mais c'est de savoir, d'établir des règles du jeu entre nous, tu sais.
Absolument. Puis dis-moi, mettons dans un cas d'un couple qui veut te consulter, puis il y en a un des deux qui ne veut pas y aller, qu'est-ce qui arrive?
Bien, il y en a. C'est drôle parce que, bon, maintenant avec Zoom, l'autre fois, c'est arrivé, j'avais une cliente qui me dit, ben là, il veut pas, il est assis dans le salon, puis là, il me disait, mais il parle pas français, fait qu'on peut parler, tu sais. Je dis, non, on va parler français, puis on va parler anglais, je veux dire, pour qu'il nous comprenne. Puis, finalement, le monsieur qui voulait pas, ben, à force d'entendre parler de lui, puis de la situation, il est venu s'asseoir avec nous.
OK.
Mais aussi, il y en a qui veulent pas, parce que il y a la question. Souvent, j'ose le demander, tu sais, qui a mis fin à la rupture, pour quelle raison, parce que ça nous donne aussi une idée des positions. Je parlais avec un client hier qui me disait, ben écoute, j'y donnerai rien à me laisser. Je dis, oui, mais là, si elle était morte là, il y a 6 mois là, avant de te laisser, elle aurait eu quoi? Ben, elle aurait tout eu, mais là, elle a brisé le contrat. J'ai dit, ah, ouais, OK. Fait que là, 26 ans de loyaux service, ça,
oui, tout parti, est passé. Parti en fumée en 2 secondes et demie.
Exact.
On va se refaire une autre pause chanson.
Ben oui, pour intégrer tout ça.
Pour intégrer tout ça, mais après, on va parler aussi d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses, Sophie, on t'a invité pour Sadim à parler de plein de choses.
Projets.
Voilà, plein de
c'est
projets.
Vrai, hein?
Donc, on part avec Léo Pichet, qui nous chante parmi nous, puis après, on va avoir une petite pause publicitaire, et on revient après, et on va parler du projet, là.
D'accord.
Voilà, on vient d'entendre Léo Pichet qui chantait parmi nous. Donc, restez parmi nous, les filles. Poussadi, prépare tes questions aussi. Sophie, on continue dans la prochaine demi-heure. C'est sûr que sur le travail d'avocate, on aurait peut-être eu encore d'autres chansons. Mais j'ai très envie de parler du projet dont m'a parlé Poussadi. Voilà. Alors, à tout de suite. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Alors, on vient d'écouter Rose Bouche qui nous chantait Auroville. Alors, maintenant, nous sommes de retour avec Sophie Bérubé et Poussadi Vani. Alors, Sophie, j'ai envie de te dire le projet. Poussadi m'a parlé de Haroua, d'un festival que tu voulais faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?
Je fais souvent des blagues ces temps-ci. C'est que je suis tombée en amour avec une île que je considère magique. Autant de par la nature qui s'y trouve, mais que par la relation entre les habitants de l'île et la nature. Et cette île, donc, s'appelle Aruba. Et je fais souvent la bague, je dis le plan A, c'est Aruba, puis le plan B, c'est Bérubé.
Oui, effectivement.
Le plan A, c'est que, bon, je me suis retrouvée sur cette île-là il y a exactement 3 ans. Je suis tombée en amour avec les gens, avec la place. Et je suis tombée dans un quartier qui n'est pas encore tout à fait développé. C'est comme si je te disais que j'avais trouvé le plateau Mont-Royal il y a 25 ans.
Ah oui,
et
OK.
Et que je savais donc ce qui s'en venait. Et comme de fait, au moment où je suis passée chez le notaire, qui était même si c'était en pleine pandémie, le New York Times faisait un article avec le paysage en face de ma maison. Et les gens, donc, se sont mis, les Américains, à cogner aux portes pour acheter les maisons. Sauf que ce qui fait la richesse d'un quartier, c'est pas seulement la plage ou les beaux paysages, mais l'environnement social aussi. On parle de défendre l'environnement, mais on oublie parfois que défendre l'environnement, ça commence par l'humain. Donc, c'est un lieu où, par exemple, pour décrire un peu les habitants, tout le monde est un peu jeune de cœur, les gens ne mentent pas, les gens savent écouter et les gens, donc, font peut-être en moyenne 30 000 $ par année. Et dans ces 30 000 $-là, pour vous donner une idée comment c'est un peu spécial comme ça, eh bien, tout le monde dépense au moins 1 000 $ en feu d'artifice. Pour le jour de l'an.
Ah oui? C'est incroyable.
Oui. Fait que j'ai dit, là, on pourrait dire, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais il faut être là-bas puis pour voir à quel point toute une île, ces 100 000 habitants se mettent ensemble pour célébrer le nouvel an en tant qu'unité. Et pour moi, ça dépasse tous les feux Benson & Hedges et les concours de feux d'artifice la ronde que j'ai pu observer dans ma vie. Parce que ça vient du peuple. Oui. Donc le projet là-bas, bien, ça a commencé avec la pandémie. On avait beaucoup d'annulations parce que c'était une propriété qu'on voulait louer. Et j'ai décidé d'en faire profiter les artistes locaux. Et c'est là que la magie a encore plus fait son effet. La propriété est devenue pleine d'art et là, ben, je me suis dit, bon, ben, cette maison-là, on ne peut plus jamais la revendre. Et il y a eu une deuxième maison qui s'appelle aujourd'hui The Core of Aruba, donc le cœur d'Aruba. C'est pas présomptueux du tout, hein, comme nom, mais c'était acheté, donc j'ai tout réhypothéqué à Montréal, puis c'était acheté et commencer comme entreprise vraiment sur la confiance, l'amour, l'âme et l'espoir. Je m'explique. C'est que la raison pourquoi on a acheté cette maison-là, c'est qu'il y avait un jeune homme qui habitait en face depuis qu'il est né là. Et l'immeuble était abandonné. Et j'étais là avec une nouvelle amie voisine aussi. Et puis au même moment où on parlait de comment c'est dommage que cet endroit-là était abandonné et que ce serait bien si la communauté pouvait en profiter, si on avait un petit endroit sympa pour manger des bonnes choses pour la santé. Et au même moment, le propriétaire un peu récalcitrant, luberlu, finalement c'est une légende parce que tout le monde à Aruba voulait acheter cette place-là, mais le propriétaire est très difficile et encore en ce moment je suis en train d'essayer de régler des petites choses légales avec lui, mais bon, on l'a vu, on s'est tous regardés comme si on se disait ben c'est là que ça se passe.
Ah oui.
Et on a acheté ça sur un coup de tête et puis un an plus tard c'est devenu un lieu d'échange culturel. Il y a des artistes internationaux qui sont venus et on a fait un festival qui s'appelle The Wind Song Fest parce que la première maison s'appelait The Wind Song. avec comme invité spécial celui qui est à l'origine du film et du livre Midnight Express.
C'est un
homme qui a fait 5 ans de prison pour avoir transporté du hashish en Turquie et qui est venu nous parler d'amour, de conscience avec sa femme Wendy West qu'il avait rencontrée au Festival de Cannes. Et on a aussi des groupes, on a un groupe musical québécois qui devrait être là en août prochain. Et tout ça nous a donné envie de peut-être faire la même chose, même s'il est peut-être un peu trop tard dans le quartier Milan pour éviter la gentrification, c'est-à-dire de créer finalement peut-être une coopérative qui nous permettrait d'acheter des immeubles, mais de peut-être d'acheter des immeubles à un prix X et d'être financé comme ça, mais de s'engager à pas faire de la spéculation sur ces immeubles-là. Et de permettre un équilibre, à savoir, mettons, dans un même immeuble, pareil comme on veut faire là-bas à Aruba, c'est-à-dire des familles qui possèdent leur maison, mais qui en arrachent, qu'on ait des immeubles en copropriété, mais qu'on puisse aussi avoir une résidence d'artiste, un Airbnb qui rapporte de l'argent, puis maintenir une famille à loyer modique dans le même immeuble ou dans la même propriété.
Quelle belle idée!
C'est une façon donc d'exploiter finalement les richesses qu'on a dans nos quartiers, mais de manière réaliste. C'est-à-dire, c'est pas un HLM, mais c'est pas non plus un riche qui arrive, qui a tous les moyens pour exploiter un Airbnb, puis qu'il n'y a plus de famille qui puisse loger dans le quartier, alors que c'est ce qui fait qu'on a une énergie spéciale dans notre quartier, c'est la diversité des... C'est la diversité, puis pas juste de couleur de peau, mais aussi de la diversité sociale.
Ah, c'est beau. Alors, Poussadi, tu dois avoir plein de questions là-dessus. Je te laisse en poser une.
Ben non, mais Sophie, elle avait fait son festival l'année passée, Sophie, en fait, l'été dernier.
À la fin de l'été, oui, du 5 au 8 août. Et puis le 8 août, ben, c'est un peu c'est une date spéciale pour nous. C'est le 8 août, c'est ce qu'on appelle le Lionsgate portal, qu'on dit, c'est que les étoiles s'alignent dans le ciel et apparemment que c'est là que on peut recevoir beaucoup beaucoup de bonne énergie.
Donc c'est magnifique.
On allait s'assurer que chaque année on aurait cette date-là en particulier. Et puis, en ayant tous ces projets-là en même temps, bien, il fallait qu'on trouve un but commun, un terrain commun. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, la paix, Peace and Arts. Alors, c'est un Peace and Arts Festival et c'est un Peace and Arts Initiative. Donc, c'est quelque chose qui s'aligne avec mon métier de médiatrice. Et on s'est dit aussi que on pourrait exporter, parce que ici, bon, j'ai mon cabinet, mais on est en train de fonder un centre de médiation internationale pour la paix et la famille, et qui aurait donc ses bureaux ici à Doha, à Aruba.
Alors, magnifique.
Oui, donc l'idée, c'est comme de, c'est, puis je pense que chaque être humain est comme ça. On est une fleur de vie. Et qui fait un cercle, et nos cercles en vieillissant, si on a bien entretenu les relations, si on a pardonné, puis on s'est pardonné, on se rend compte qu'on est une belle grande famille humaine, et nos cercles se touchent et s'influencent. Et je dirais que The Core of Aruba, bien, c'est un endroit où les gens ils se sentent bien, ils se sentent eux-mêmes. Et là, ben, j'ai pas le choix d'être à la hauteur de ça.
Ah oui, parce que il y a comme...
On allait faire bien de l'argent avec mon Airbnb, mais finalement, c'est rendu une démarche communautaire. Moi, je connais Poussadi depuis quelques années, puis Poussadi a toujours été dans cet esprit communautaire.
Oui, ça, c'est vrai. Oui.
Puis là, Poussadi, elle essaie de me rejoindre dans l'entrepreneuriat, puis let's go, on fait du cash. Puis moi, ben, je suis en train de me foutre complètement du cash, puis de nourrir finalement cette fleur de vie qui me redonne tellement en intangible que j'ai envie de partager ça. Puis pour faire un loop avec la médiation, c'est ça le nœud de la guerre. On pense souvent la paix économique, ça passe par l'appréciation des intangibles dans notre vie. Une mère au foyer va, c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus, mais ça va apporter un lot d'intangibles qui n'a pas de prix. Un parent qui s'occuper d'un parent malade, s'occuper de gens autour de nous, toutes ces choses-là qui sont données gratuitement ont de la valeur et il faut trouver un mode de fonctionnement comme quand on se sépare puis qu'on apprend à partager ce qu'on a. De créer de la valeur même si on en a moins, puis qu'il faut se séparer, puis on crée de la valeur en donnant, en reconnaissant la part d'intangible qui nous est donnée. Puis je pense que vous travaillez pour un public,
oui,
qui connaît ça, qui peut-être ne peut pas saisir toute la différence des couleurs, mais peut tellement ressentir les douceurs de son environnement à partir de choses qui nous apparaissent pas tangibles. Puis c'est dans cette communication-là qu'on peut vraiment travailler pour la paix en nous, la paix dans notre famille, dans notre couple, avec nos voisins, avec notre quartier. Et puis, comme les plus grands, bien, si on a la paix en nous, puis qu'on dans notre noyau, eh bien, l'effet il est quantique. Donc, malgré la pandémie,
je dirais presque à cause, parce que ça nous a comme permis de faire un virage tellement intense, tellement brutal et inattendu, que pour certains, ben, ça donne l'occasion de faire les gestes qu'ils n'osaient ou ne pensaient pas poser il y a 2 ans en arrière.
Absolument, j'aime beaucoup, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Puis l'âme est au milieu de la pupille qui, elle, est dans l'obscurité totale.
Oui.
Donc, tu sais, c'est le film qu'on projette autour de nous, que on peut le projeter, on peut l'apprécier avec notre nerf optique, mais on peut l'apprécier aussi avec le corps, avec le vent sur notre peau, notre conversation avec les autres humains, mais aussi avec les éléments, avec la nature, avec les animaux autour de nous. Je pense que ça a ouvert les yeux, finalement, oui, de plusieurs d'entre nous. Et j'ai aimé le fait que, par exemple, je peux imaginer, même si on était très, très riches, là, les travaux, ça se faisait pas plus vite.
C'est vrai.
Pour nous. Et on s'est rendu compte qu'on était plus égaux qu'on le pense. Avec l'école à la maison, on a pris tout un coup sur...
Tout à fait.
On se pensait bon comme parents, on est vraiment pas. Et finalement, ce qu'on a peut-être rejeté ou délaissé au profit de la modernité puis de la liberté, comme la solidarité puis la coopérativité,
oui,
coopération que nos grands-parents avaient avec leur ferme puis leur défi à ce moment-là, mais finalement on trouve que là c'est intelligent. Puis il y a bien du monde qui ont commencé à faire du pain, pas moi là, ça c'est mon chum là qui est devenu mais c'est ça, c'est vrai que tout ça
on se découvre,
ça dépend comment on le prend, hein.
Je trouve qu'on se découvre avec des façons de faire qu'on n'aurait peut-être pas vues ou auxquelles on n'aurait pas pensé. Des moments, on peut se découvrir du côté qui n'est pas positif du tout, mais on ne va pas en parler. Mais on peut aussi se découvrir autrement.
Bien, il y a aussi le côté négatif, c'est bien aussi, parce que moi, par exemple, en médiation, je dis souvent, on s'accuse d'être cheap, par exemple.
Oui.
Oh, lui, il est cheap. Puis je dis, ton enfant, là, ton petit, là, quand il dit... Tu veux-tu un petit morceau de gâteau ou un gros morceau de gâteau? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un gros morceau, hein? Ça s'appelle le greed. Il veut, on veut quelque chose.
Oui.
Pourquoi, lorsqu'on devient adulte, ça, c'est dénoncé comme mal?
Mm.
Déjà, si on accepte qu'on a peur de manquer ou qu'on
oui,
veut,
voilà,
toujours plus, bien, on vient déjà on vient d'ajouter un témoin à l'intérieur de nous qui va nous empêcher de dépasser des limites, alors que si on pense que c'est tellement mal, ben on n'est pas capable de voir ça en nous. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de nous s'améliorer. C'est pour ça quand on dit la paix commence par moi, ben moi je dois accepter que moi aussi j'ai menti, moi aussi j'ai été greedy, moi aussi j'ai été violent. Il y a aussi,
oui,
ça, cet aspect-là. L'enfant, si on enlève son jouet, qu'est-ce qu'il fait? Ben il devient violent.
Oui.
Ah ben, c'est la même
chose. Si tu
ne
lui expliques pas, oui.
C'est la même chose pour l'adulte. Le problème, parfois, on se bat avec des sentiments d'enfant meurtri avec des moyens d'adulte. Et c'est là que la violence, que le gain, la pas de gain, que le désir d'avoir raison, que l'orgueil et toutes ces choses-là prennent une tournure plus dramatique. Mais si on est conscient de ça dès le départ, puis qu'on apaise cet enfant en nous qui est meurtri dès le départ, puis qu'on partage l'information. C'est-à-dire, c'est pour ça que la médiation, c'est une bonne chose. Avant, c'était des grandes familles où les aînés disaient, bon, inquiète-toi pas,
oui.
Ils sont tous pareils. Puis c'est comme ça que nos mariages survivaient.
Non, mais c'est...
maintenant, il y a comme une espèce de...
Oui.
Il y a moins de communauté pour nous soutenir dans cette espèce d'apprentissage de nous-mêmes, parce que toute notre vie, on en apprend sur nous, finalement.
Et ça ne s'arrête jamais. Enfin...
Non, ça s'arrête jamais.
Pardon?
Je t'aime, Sophie. Elle était tellement inspirante.
Et puis, je présume que d'aller à Aruba, t'as donné encore du plus pour être au service des couples qui se déchirent des fois sans raison vraiment valable, souvent d'ailleurs.
Oui, mais je dirais que Aruba m'a appris d'autres choses. C'est le pendant extrême positif, c'est-à-dire que là-bas, les enfants apprennent à ne pas interrompre pendant que leurs parents parlent. Okay? Donc, les Arubiens savent écouter, mon Dieu, comme ce sont des psychologues nés, des médiateurs nés. Mais, par contre, étant donné que c'était quelque chose qu'on leur apprenait même parfois à la dure, c'est-à-dire une tape derrière la tête, ils n'ont pas appris à interrompre pour dire « Hey, je comprends pas ce que tu es en train de me dire » ou « Hey, ça fait pas avec moi ». Donc, j'ai comme l'impression que autant que je dirais que si j'avais à investir dans un seul peuple, ce serait celui-là, mais j'ai l'impression aussi que ce peuple-là continue, comme il le fait depuis des années, même on pourrait des milliers d'années, parce que les premières nations qui transitaient par Aruba étaient les Arawaks, qu'on appelle les Peace and Love des Autochtones.
Oui.
Ils continuent de prendre le meilleur de chacune des cultures qui les visitent. Donc, dans ce contexte-là, même leur langue, elle est musicale, elle se rapproche de ce que je pourrais appeler du chant des oiseaux tellement elle est belle. Et donc, ça m'a appris donc à développer d'autres langages. Et ce qui fait que je suis capable de connecter plus avec mes clients parce que chaque personne a un langage qui lui appartient,
oui,
une musique qui lui appartient.
Mais il faut savoir l'entendre.
Oui, ben oui, c'est ça. Puis c'est surtout la relation avec la nature. Aussi, par exemple, je prends une marche avec mon amie Susanna, qui, comme bien des gens, est arrivée à Aruba une fois et puis pensait qu'elle allait être... elle pensait qu'elle allait rester là juste 3 ans, mais elle est restée 20 ans. Alors, c'est le genre de situation... elle m'expliquait que, par exemple, il y avait un coquillage, que le worm shell, un ver de coquillage, pouvait prendre des milliers d'années à faire un coquillage. Et il se nourrissait que de la lumière du soleil. Il se reproduisait seulement grâce à la lumière du soleil.
Wow!
Tu sais, c'est le genre de choses qu'on peut découvrir par rapport à la nature qui agrandit notre conscience et qui se dit, bon, ben cette nuit, je vais aller faire de l'eau, puis je vais aller faire 1000 ans comme Worm Shell, je vais me réveiller demain. Mais c'est ça où les gens, tu vois, les gens là-bas, un peu comme un médiateur, c'est une petite île, là, c'est petit que Montréal, il y a 1,8 million de personnes qui transitent par cette île-là chaque année. Et il y a 8 personnes sur 10 qui retournent. Et je l'admets, moi-même, j'en fais partie. On arrive là avec notre stress, notre marde occidentale.
Oui, 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 je vois très bien.
Et tout ça. Et eux, ils transmettent ça. C'est comme si c'était une forme de garbage man, là, tu sais, de déboire de nous, tu sais, qui arrive avec nos énergies. Et dans le coin où je suis, qui n'est pas encore trop développé par le tourisme, ben tu vois, tu sais, les Arubiens font comme ils viennent se régénérer dans la mer. Ils viennent, c'est comme, ils parlent de la mère comme d'une tante adorée. Tu sais? Donc, et j'ai l'impression que la mère répond.
Ah, c'est, bien,
c'est peut-être, peut-être que je suis rendue africaine et animiste, mais...
Peut-être, mais en tout cas, tu nous as donné le goût. Oh, on est arrivé à la fin de cette entrevue, mais tu nous as donné le goût, en tout cas, de
oui.
partir, au moins d'aller visiter cet endroit-là. Merci beaucoup.
Oui.
Ça a été un grand plaisir de pouvoir t'entendre, Sophie. C'était vraiment très intéressant, même passionnant.
Bon, ben, je vous donne la paix, comme quand j'étais petite à l'église, on donne la paix.
Eh bien, merci beaucoup. On va rester avec Poussadi un instant, mais on te laisse partir. On va se quitter avec la chanson Lucille qui baissait les yeux. Et merci mille fois et bonne continuation pour tout ce que tu entreprends.
À bientôt.
Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Musique. Alors, Poussadi Vani, nous reste une minute pour dire au revoir parce qu'on a beaucoup discuté avec Sophie et c'est tant mieux. Et merci mille fois, Poussadi, de nous l'avoir fait connaître. Vraiment, merci beaucoup.
Elle est formidable. Hein.
Sans ça, c'était vraiment très intéressant. On aurait eu plus, on aurait pu plus, mais on ne pouvait pas. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là et merci à toi de nous avoir tenu compagnie jusqu'à la fin. Merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés. Merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. On se dit à demain et puis toi, Poussadi, à dans un mois.
À dans un mois et on continue de partager puisque ça
bien
donne
sûr.
La paix. Hein?
Bien sûr. On t'embrasse. Merci pour tout ce que tu fais. Au revoir.
Je vous embrasse. À bientôt.